Bienvenue dans Sporama, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au sport, à l'actualité, où l'actualité brûlante du football et du sport américain nous rassemble ce soir. Eric Manilakiza avec vous. Georges Léonard Sagnot assure la réalisation de cette édition de la Ligue des Champions avec un choc alléchant entre Manchester City et le Real Madrid. Un duel 100% français entre Brest et le PSG, sans oublier un Super Bowl où les Eagles ont brillé. Nous allons donc couvrir aussi les temps forts de l'actualité sportive en Afrique avec des qualifications cruciales et des compétitions internationales en vue. Restez avec nous pour une analyse complète de ces événements avec nos réguliers consultants sportifs. Nous aurons Amine Birouk au Maroc, Jules Valentin Gouet, Amédine Si, Élisée Oumpati qui se trouve au Bénin. Et dans ce studio, je suis avec un invité d'honneur, c'est Monsieur RM Show. Bonsoir.
Bonsoir Eric Manirakiza.
Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai oublié même votre nom.
Je m'appelle Roger Mountou.
Ah oui, moi. De toute façon, vous êtes très connu, donc c'est fait exprès. Hein.
Je sais, mais bien sûr.
Oui.
Quand Eric et Roger sont là, il y a toujours une petite blague qui va sortir, on sait quelque chose.
Oui. Vous connaissez Amine Birouk?
Oui.
Il est au Maroc.
Ah oui.
Amine, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Roger est avec nous ce soir.
Bonsoir Amine.
Bonsoir Roger.
Élisée, bonsoir.
Bonsoir Eric et un big up hein, à Roger Moutou.
Bonsoir Élisée.
Amédine Si à Columbus. Amédine.
Yes.
Bonsoir.
Yes, Eric. Bonsoir et bonsoir à tous les auteurs de la Voix Afrique.
Oui, tout à l'heure nous aurons notre monsieur. C'est Jules.
Le doyen, comme Georges aime bien l'appeler.
Le coup de sifflet,
le doyen.
Ah ouais.
Ouais.
Alors, voilà. Roger Mountou est avec nous pour une raison. Roger, le Super Bowl,
oui.
Un événement majeur aux États-Unis.
Exactement.
C'était un match, la finale hier,
oui.
Dimanche. Mm. Alors, en quoi ce sport diffère-t-il des sports collectifs populaires en Afrique et comment le football, comme le football et le rugby.
Et le rugby, par exemple. Oui. Je vais plus parler de football, le soccer qu'on appelle ici aux États-Unis. Et Eric, c'est une très bonne question parce que dans la diaspora, ici, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas trop habitués aussi hein, au Super Bowl, qui posent la même question. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement d'abord ultime hein, du football américain, le Super Bowl. C'est un sport qui diffère pratiquement du football que nous connaissons, le soccer, sur plusieurs aspects. Hein, mais je veux juste m'attarder sur quelques aspects comme le règle du jeu. Le football américain, Eric, est basé sur des phases de jeu courtes avec des arrêts fréquents, hein, tandis que le soccer est un jeu fluide avec très peu d'interruptions hein, comparé au football américain. On va parler aussi de la durée du match, qui est un match par exemple de football américain dure 60 minutes hein, de temps de jeu effectif, mais avec des arrêts et des publicités, il peut durer plus de 3 heures, hein, contrairement au soccer qui dure le football comme nous connaissons en Afrique, qui dure 90 minutes. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est un spectacle, enfin un événement qui est médiatique gigantesque avec un spectacle de demi-temps hein, qu'on appelle la halftime dans le Super Bowl où il y a beaucoup de publicité iconique et un engouement bien au-delà même de sport. Alors que le football, par exemple, si on dit Eric en Afrique, est plus centré sur la passion de supporters et l'engagement communautaire.
Et c'est aussi culturel parce que les familles et les amis se retrouvent, se rencontrent. Et il y a même un menu très spécial.
Un menu très spécial. Il y a l'alcool, bien sûr, qui est vendu dans le truc, mais il y a aussi le hot dogs, il y a le fried. Hein?
Je savais que vous alliez parler du vin. Alors, Roger, pour ceux qui ne connaissent pas le football américain, quels sont les éléments clés à comprendre pour apprécier un match de Super Bowl?
Oui, ça c'est aussi une très bonne question. C'est vrai que comprendre ça en une journée peut être un peu compliqué, mais les bases du jeu d'abord c'est de savoir, Eric, qu'une équipe doit avancer par passe ou course hein, pour atteindre la zone d'un but adverse et marquer des points. Donc ça se passe graduellement. Et le scoring qu'on appelle, et tu le sais très bien Eric, hein, un touchdown vaut 6 points. hein, avec une tentative de transformation pour un ou deux points supplémentaires, hein, et qu'on appelle un field goal ou trois points. Les rôles aussi du joueur. Chaque équipe a une attaque, une défense et des unités spéciales qu'on appelle le quarterback par exemple, qui est le stratège même qui dirige l'attaque. L'enjeu du match, le Super Bowl n'est pas un match ordinaire comme nos auditeurs le savent sûrement. C'est la finale même du championnat NFL où la tension même et l'émotion sont à leur comble, comme on l'a vu hier.
Oui, alors, hier, vous étiez devant votre écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ne pas aller au stade pour suivre ce match. Mais bon, Roger, il porte un joli maillot.
Ah ouais, la radio n'est pas la télé. Si on pouvait me voir là, comment je suis habillé là.
Ouais, avez-vous gagné hier?
Oui, ouais. Moi, j'ai mon équipe, c'était les Philadelphia Eagles, qui sont champions de Super Bowl 2025. Et Eric, tu veux savoir comment je me sens? Mais écoute, les Philadelphia Eagles ont remporté le Super Bowl 2025. Je ressens une immense fierté et une joie indescriptible, hein, si je peux le dire. Ici, c'est une victoire historique, hein, qui marque un moment inoubliable pour les joueurs, les fans et toute la ville même de Philadelphie, parce que il faut pas oublier que l'équipe, ils ont joué avec ils ont joué contre
les Chiefs.
Les Chiefs, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Merci Georges. Les Chiefs. Et les Chiefs, ouais, Georges c'est un fan des Chiefs lui. Mais les Chiefs c'est une très bonne équipe, hein. Et donc c'est pas de la blague. Gagner les Chiefs, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pourquoi c'est pour ça que nous sommes très contents, parce que avec Mahomes, ouais, qui est encore le grand joueur. Voilà exactement, Patrick, ouais. Hein, ouais, qui est très fort. Ouais. Donc c'est pas pour nous. Eric, je sais que tu sens ça par ma voix même, que je suis encore.
Oui. Tu sais, Roger, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Le Super Bowl, c'est un peu comme un mariage, hein. On se prépare pendant des mois, mais au final, c'est juste un gros ballon des cris et des tacos.
Il y a qu'Eric qui peut penser à ça. C'est un moment de fête, Eric. C'est un moment de fête, de célébration.
Okay. Ouais. Merci, Roger, pour toutes ces précisions, pour parler du Super Bowl. Nous devons accueillir notre Jules qui est avec nous. Jules, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Oui, bonsoir. Alors, on va maintenant passer à ce qui se passe sur notre continent. Nous allons parler d'abord de ce trophée, le trophée Hassan II de golf et le tournoi du PGA Senior Tour. C'est au Maroc, à Minbirouk. Le trophée Hassan II de golf fait partie des événements majeurs sur le continent. Comment évaluez-vous l'impact de ce tournoi sur la promotion du golf en Afrique et quels joueurs africains devrait-on suivre de près?
Oui, il faut dire que le golf, c'est un sport de riche en Afrique. Un sport de riche en Afrique, à un moment donné, et dans certains pays, il a connu un certain boom. Mais là, au fur et à mesure, les terrains de golf se sont fait rares, sauf dans des pays beaucoup plus avancés, en Afrique, surtout en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Est. Et maintenant, on est en train de vouloir regagner ces terrains perdus. Et ce n'est qu'une bonne initiative dans la mesure où le sport est un plus pour le développement économique.
Amin Birouk.
Alors en termes d'image déjà, c'est très important parce que ça fait partie du soft power du Maroc. Le tournoi a vu le jour en 71 sous forme d'exhibition. Il a connu une deuxième étape et un âge d'or lorsqu'il faisait partie du circuit de l'European PGA, et aujourd'hui il fait partie du Senior PGA. Le Senior PGA, c'est les grandes légendes du golf qui ont dépassé 50 ans et qui visent une troisième, disons une fin de carrière dorée, et nous avons eu un plateau de rêve avec 17 majors, ceux qui étaient réunis, 17 titres réunis, ça veut dire tout simplement des gens.
Nous avons un problème de connexion téléphonique avec Amin Birouk. On va essayer de rétablir la connexion téléphonique. Amin, vous êtes là? Vous êtes revenu? Il n'est pas là. Amédine? Amédine?
Oui, Eric.
Oui, voilà, vous êtes là. Bon, je ne vais pas vous poser une question sur le golf, parce que moi-même, j'ai essayé de jouer au golf, mais j'ai passé plus de temps à chercher mes balles qu'à les frapper. Peut-être que je devrais changer de sport ou de lunettes. Mais avec le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine qui vient de débuter à Médine, quelles équipes africaines ont selon vous les meilleures chances de se qualifier pour le Maroc en 2026 et pourquoi?
D'abord, il y a les grands, comme vous le savez. Il y a le Nigeria qui a déjà 7 titres, 11 même, parce que le Nigeria a gagné ce trophée à 7 reprises d'affilée, hein, de 1991 à 2006. Le Nigeria a raflé 7 titres d'affilée. De 91 jusqu'en 2006, c'était le Nigeria. Ensuite, il y a eu la Guinée équatoriale qui a gagné en 2008. Le Nigeria est revenu pour gagner en 2010. La Guinée équatoriale qui a gagné en 2012 pour gagner. Et le Nigeria encore 2012, 2014, 2016, 2018. D'ailleurs, il n'y a que trois nations qui ont réussi à gagner ce trophée continental. Il s'agit quand même du Nigeria qui a gagné à 11 reprises, de la Guinée équatoriale à 2 reprises et de l'Afrique du Sud qui a gagné quand même la dernière édition. Mais ça, c'est que pour cette présente édition, il y a eu 38 équipes engagées pour 12 places pour la phase finale qui est prévue au Maroc. Le Maroc qui va organiser cette compétition pour la troisième fois d'affilée, cela veut dire ce que cela veut dire. D'ailleurs, les Marocains ont même disputé la finale de la dernière édition. Mais pour ce premier tour, il y a eu des exemptés. Les grandes nations ne joueront pas ce premier tour. Ils vont attendre. Et les autres équipes vont jouer le premier tour. Il y a beaucoup d'affichants comme l'Angola qui rencontre le Zimbabwe, Malawi contre Congo, Botswana, RDC, Tanzanie, Guinée équatoriale, Ouganda, Éthiopie, Eswatini contre Namibie. Bref, et le Sénégal, mon équipe qui va jouer contre le Tchad. Ce sera le match aller, ce sera le 21 à Abidjan, et le match retour, le 26, ce sera au stade La Diode de Thiès. Bref, il y a eu beaucoup d'affiches pour ce premier tour, mais les cadors vont attendre quand même le deuxième tour. Ce sera une compétition relevée, sûrement, Eric.
Merci, Élisée. La suspension du Congo par la FIFA a des répercussions sur le football du pays. Quels sont les impacts immédiats et à long terme pour la fédération congolaise et le développement du football dans cette région?
Ouais, il n'y aura plus de développement du football à l'international, il faut être clair. Et ce sera à l'interne qui, en tout cas, cette crise qui secoue et la fédération, cette crise entre la fédération et le ministère des Sports, puisque la décision qui a valu cette suspension venue du ministère qui a décidé de retirer quand même toutes les sélections congolaises des différentes qualifications, vous imaginez donc. Et ça agit directement dans le groupe du Maroc qualificatif pour le prochain mondial qui aura lieu du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, puisque là, ce groupe qui avait 6 équipes au départ, finalement va se retrouver à 4, puisque entre l'Érythrée était retiré, puis maintenant le Congo-Brazzaville, dont vous imaginez le Maroc qui est largement en tête et qui a l'occasion déjà de se qualifier, puisque le Maroc a l'occasion d'être le premier pays qualifié pour cette Coupe du Monde à condition de gagner ces deux prochains matchs, à commencer d'abord par un adversaire et puis après la Zambie pour le second match. Maintenant le Congo-Brazzaville doit revoir son organisation et le président Mayounas doit quand même essayer de s'entendre avec le ministre des Sports, avec la politique congolaise, puisque là, le courant ne passe plus du tout entre le gouvernement et Mayounas, le président de la fédération, le président de la fédération congolaise de football, qui est complètement décrié dans le pays, alors que la FIFA le supporte, comme vous imaginez, il y a deux jours à chaque fois, quand la FIFA supporte quelqu'un, eh bien, c'est difficilement qu'il faut le déloger. Aujourd'hui, le Congo en paie les frais, puisque la FIFA l'a sanctionné. On attend, est-ce qu'il y aura un comité de normalisation, puisque à chaque fois, c'est ce que la FIFA installe. Donc, est-ce qu'on aura un comité de normalisation pour revoir toute l'organisation qui a autour, non seulement du football, mais aussi dans son organisation, puisque le problème se pose aujourd'hui.
Amine, la Coupe Lala Mariem, un tournoi du Ladies European Tour attire de plus en plus de joueuses de classe mondiale. Quels sont les défis et les opportunités pour les golfeuses africaines à cette compétition?
Déjà y prendre part, et c'est ce qui s'est passé avec 5 Marocaines qui étaient au départ, dont 2 qui ont réussi à passer le cut. Et aujourd'hui, le Maroc se targue d'avoir des golfeuses qui ont participé à aux trois dernières éditions des Jeux Olympiques au nom du quota africain. Et c'est très important. Donc ce tournoi fait gagner de l'argent, fait gagner des points au classement du Ladies European Tour, et puis c'est la possibilité d'avancer dans la hiérarchie du golf mondial et de se qualifier, pourquoi pas, directement aux Jeux Olympiques sans passer par les quotas. Et aujourd'hui, le Maroc est en pointe. Le Maroc a remporté le championnat d'Afrique de golf par équipe, et au détriment d'Afrique du Sud, ce qui n'était pas arrivé depuis 2011. Et donc, il y a une politique golfique qui est importante. J'espère que d'autres Africains vont emboîter, et Africaines vont emboîter le pas. Le suivi est important par des journalistes du continent. C'est passé cette semaine à Rabat. Et j'espère que ce sera que le départ d'une belle aventure.
Alors, à Médine, on va parler de la Ligue des Champions. PSG, Brest, Paris part en tant que grand favori, mais Brest a montré de belles choses récemment. Pensez-vous que cette équipe peut surprendre les Parisiens?
Oui, tout à fait, c'est un match de football, et quand on dit un match de football, tout reste possible. Ça, c'est que c'est une affiche qui fait rêver au niveau de la France. D'ailleurs, le match se jouera à guichet fermé au stade Roulerou de Guingamp. Comme vous le savez, le stade Francis Blais de Brest ne peut pas accueillir cette compétition qui est la Ligue des Champions. C'est pourquoi les Brestois sont obligés quand même de se déplacer jusqu'à Guingamp pour pouvoir jouer contre leur adversaire. En tout cas, ce sera un match qui ne sera pas du tout facile puisque les deux équipes se connaissent très bien. D'ailleurs, c'est la deuxième opposition entre Brestois et Parisiens de ce mois de février, car le 1er février, les deux équipes se sont rencontrées, et c'était en championnat de France, et c'est le Paris Saint-Germain qui s'est imposé en déplacement au stade Francis Leblay sur le score très large de 5-2. Cela veut dire tout simplement que les Parisiens sont en ballotage favorable puisque, comme vous le savez, les Parisiens ont le vent en poupe en ce moment, surtout si vous regardez comme les matchs du championnat et de la Ligue des Champions, avec un joueur qui marche sur l'eau, je veux nommer Dembélé, mais avec cette équipe de Brest, on peut s'attendre à tout, surtout pour cette Ligue des Champions, car Brest, durant cette saison régulière, a terminé à la 18e place avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, alors que le Paris Saint-Germain a terminé à la 15e place avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais pour cette affiche, il faut le dire, le Paris Saint-Germain part largement avec la faveur des pronostics. Mais attention à ces Brestois, Eric.
Jules.
Oui.
Oui. La Ligue des Champions, c'est comme.
Oui, j'entends bien. Oui, oui, oui.
C'est comme une relation amoureuse. Parfois, tu es sûr de gagner, puis tu te fais éliminer au dernier moment.
Ok.
Oui. Qu'en pensez-vous? Oui.
Tu peux répéter ta question, s'il te plaît?
Oui, je dis, mais parfois tu es sûr de gagner, puis tu te fais éliminer au dernier moment.
Oui, bien sûr. Surtout que dans ces confrontations, c'est l'équipe la moins cotée qui reçoit, cette fois-ci au match aller. Et donc, elle jouera sans doute sans pression. Et vu le plus souvent son classement en interne qui n'est pas le plus souvent très reluisant, cette équipe jouera, comme je l'ai dit, sans pression, et elle recevra le ténor devant son public, cherchera à prendre, disons que soit une avance, soit à marquer un coup, qui fera que au match retour, c'est toujours le ténor qui aura la pression sur le dos. Donc, alors, en ce qui concerne les rencontres comme celle entre Brest et Paris Saint-Germain, c'est des rencontres pièges. Et la même chose, on le ressentira entre Sporting et Dortmund, ainsi de suite.
Mmh. Élisée, il y a ce match Manchester City et le Real Madrid qui est désormais un classique. Selon vous, quel aspect tactique fera la différence cette année?
Parce qu'on parlera de tactique, puisque actuellement les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme, il faut le préciser. City qui est totalement en dégringolade, il faut le rappeler. Pep Guardiola, après avoir prolongé son contrat, est tombé des nuages, il faut le dire simplement, puisque rien ne va plus pour le moment pour cette équipe de citizens, des citizens qui sont mal placés dans le championnat. Par contre, le Real Madrid, c'est vrai que bon, les résultats ne suivent pas, même si le club est en tête de la Liga, accroché avant-hier par l'Atlético Madrid. C'est quand même un match choc, un match plein, ce qui n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça reste un classique, ça reste un match tant entendu, puisque durant les quatre dernières années, ces deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises. Une fois encore, le Real sera opposé à Manchester City. Manchester City de Pep Guardiola va affronter encore le mystère Carlo Ancelotti. Ça va être un match très attendu, il faut le dire simplement. En tout cas, le tenant du titre va vouloir quand même passer Manchester City, et Pep Guardiola sait que la seule compétition qui lui reste aujourd'hui, c'est bien sûr la Ligue des Champions, et il faut aller et chercher un second trophée. Ça s'annonce compliqué, mais pas impossible, puisque vous l'avez dit, en Ligue européenne des champions, en Ligue des champions UEFA, on pense qu'on va avoir la victoire, mais au finish, c'est la désillusion. Donc, on va assister à un match qui promet.
Amine, avec ces barrages, l'intensité des matchs de Ligue des champions ne cesse de croître. Quels sont, selon vous, les véritables prétendants au titre cette saison ?
Les véritables prétendants au titre sont déjà dans ce barrage. Il y a déjà les deux derniers vainqueurs qui s'affrontent. Donc l'un d'entre eux sera KO sur le tapis. Il y a la Juventus, le Milan AC. On pense bien évidemment à ceux qui sont déjà en train d'attendre les adversaires. Je pense à Liverpool et à un degré moindre à Barcelone. Voilà, autant de prétendants pour cette compétition qui est de plus en plus ouverte, surtout avec cette nouvelle formule. Certains l'apprécient, d'autres un peu moins. Mais il est vrai que certains ont joué aussi égal, ont perdu des points en route et sont obligés de disputer deux matchs supplémentaires avant de retrouver la formule des huitièmes de finale qui est un peu plus classique dans cette Champions League européenne depuis 1992.
Oui, on va parler du football africain qui connaît une belle évolution. Il nous reste moins de deux minutes. Nous aurons, disons, 25 secondes pour chacun. On va revenir notamment sur la prochaine CAN au Maroc. Quel impact cette compétition aura-t-elle sur les équipes nationales et la visibilité du sport en Afrique ? Amine, en 25 secondes.
En 25 secondes, ce sera la plus belle CAN de l'histoire. Tous les moyens seront offerts pour que cette CAN soit une réussite. Et il faudra se dire que tout le monde aura les yeux braqués sur la destination Maroc et sur ses 24 sélections avec leurs stars.
Élisée, 25 secondes.
Oui, après la CAN ivoirienne, on a vu que le Maroc doit mettre en tout cas tout en œuvre pour pouvoir dépasser, puisque au Cameroun, on l'a senti, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fait plus, donc les Marocains feront plus, et sur le terrain, c'est une occasion pour le Royaume de décrocher enfin un trophée qui lui suit depuis 1976.
Ahmed
Insi. Moi, j'ai des inquiétudes sur le plan des infrastructures, ça va, les équipes, ça va, mais c'est la période qui me pose problème, parce qu'il faudra extrêmement froid au Maroc durant cette période. Est-ce que cela ne risque pas d'atteindre un peu le niveau de jeu? J'en sais rien, parce que j'ai déjà fait deux CAN durant l'hiver. C'était en Tunisie en 2004 et en 2010, mais c'était des CAN pas du tout relevées. Mais bon, on prend le droit pour voir.
Jules, un avant-goût du coup de sifflet? Jude.
Cadre est idéal sur tous les plans, les infrastructures, tout le monde en a parlé. Une grande nation sportive qui prépare la Coupe du Monde, qui prépare la Coupe du Monde qu'elle va organiser. Donc l'idéal est là. Mais maintenant, les équipes sont qualifiées bien avant le temps, donc elles auront le temps de s'étudier. Ce qu'on craint, c'est qu'on retrouve une Coupe des Nations passionnelle Mais je crois qu'en Afrique, généralement, la joie de jouer finit par l'emporter.
Merci beaucoup, Jules Valentin Gouet, Amine Birouk, Kamedine Si, Elisa Ongpatine, Roger Montou, Eric Manila qui étaient avec vous au micro. Georges et Léonard Sagno a assuré la réalisation de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à la prochaine, le rendez-vous c'est demain pour la Ligue des Champions. Des affiches intéressantes.